Il est assez fou d'imaginer que le simple fait de régler l'alarme de son téléphone le matin puisse devenir une sorte d'acte de rébellion politique.
Ah ouais, totalement. C'est vraiment le point de départ de notre analyse d'aujourd'hui.
Exactement. Alors, on plonge au cœur d'une grosse pile de documents tirés de la publication iWeek numéro 122. Et en décortiquant un peu tout ça, il y a un fil rouge super frappant qui apparaît.
La fameuse fracture entre la surface et l'invisible, c'est ça?
C'est ça, oui. Le décalage énorme entre, d'un côté, les grandes décisions technocratiques officielles, et de l'autre, la réalité brute vécue sur le terrain. Que ce soit par les citoyens, les économies ou même les armées.
Et c'est là que ça devient passionnant. Parce que, tu vois, l'analyse des sources démontre que ces dynamiques de pouvoir, elles fonctionnent exactement selon les mêmes schémas sous-jacents.
Ouais.
On parle de l'horloge biologique d'un individu complètement épuisé ou des manœuvres diplomatiques d'une superpuissance. Au fond, c'est toujours une règle imposée d'en haut qui vient se fracasser sur la réalité.
Bah écoute, j'avoue que quand j'ai lu les premières notes sur le maintien de l'heure d'été au Maroc, le fameux GMT plus 1, j'ai d'abord un peu souri.
Ah bah comme tout le monde, enfin, on a l'habitude du marronnier journalistique après le ramadan, non?
Voilà, la petite complainte saisonnière sur le sommeil en moins. Sauf que l'étude qui nous est fournie, elle passe au crible, attends, j'ai le chiffre exact, 14 387 commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Et le tableau est beaucoup, beaucoup plus sombre.
C'est carrément qualifié de sujet politiquement explosif dans les documents.
Mais comment, en fait, comment une simple mesure horaire, un truc de montre, ça devient une bombe sociale?
Parce que ce n'est plus du tout un débat abstrait sur les économies d'énergie. C'est littéralement un jet lag institutionnel qu'on impose au quotidien. Ce qui ressort de ces 14 000 commentaires, c'est l'émergence d'un concept très fort appelé l'état sourd.
L'état sourd?
Ouais. Les citoyens décrivent une vraie épreuve physique, tu sais. La fatigue chronique, les réveils brutaux, l'angoisse de voir les gamins partir à l'école dans l'obscurité totale.
Ah ouais, l'obscurité, c'est vrai.
Et donc, le corps devient la preuve irréfutable que la politique dysfonctionne. L'argumentaire de l'État a totalement disparu parce que les gens signent des pétitions, ils interpellent les ministères et rien ne bouge. Ça génère de la colère, de l'épuisement et surtout, et c'est le pire, un cynisme profond.
C'est vrai que le cynisme, il est palpable dans les sources. Il y a une expression qui revient en boucle dans l'étude, c'est, je cite, « Quel trois âmes nefselcassita », ce qui veut dire « chaque année, la même cassette ».
Voilà. Le sarcasme prend le dessus. Et sociologiquement parlant, je suis ravie que les notes insistent là-dessus. Quand le sarcasme remplace la colère frontale, c'est le symptôme clinique d'une confiance qui s'est déjà retirée.
Les gens ne croient plus en rien, en fait.
Exactement. Ils ne disent plus « on exige un changement », ils disent « on sait très bien que ça ne servira à rien ». Les intermédiaires, comme le Parlement ou les syndicats, la courroie de transmission officielle est totalement brisée.
Et il y a une dimension identitaire fascinante aussi. Une partie des internautes associe l'heure naturelle à la baraka, la bénédiction. Et le GMT plus 1, à l'inverse, s'est vu comme un alignement technocratique pur et dur sur la France ou sur les intérêts étrangers.
L'horloge devient un marqueur de souveraineté.
C'est dingue.
C'est un choc frontal entre la temporalité de l'économie mondialisée, la surface, et la temporalité intime vécue par le corps.
Et justement, c'est là que notre fil rouge s'éclaire. Parce que quand les structures de surface sont sourdes, la pression, elle ne disparaît pas par magie. Elle va s'infiltrer dans des réseaux invisibles.
Absolument.
Si l'économie officielle étouffe les citoyens, ils cherchent des alternatives désespérées. Ce qui nous amène direct aux chiffres, franchement glaçants, sur les illusions numériques.
Les fameuses arnaques pyramidales.
Oui. Les documents de UIC font état de près de 1887 victimes au Maroc en un peu plus de 2 ans. 182 affaires, 137 suspects. C'est massif.
C'est massif et c'est super bien camouflé. La digitalisation, avec WhatsApp et les réseaux sociaux, a transformé le vieux système de Ponzi en une machine invisible.
Indétectable pour les autorités, presque.
Voilà. Mais le vrai sujet, c'est pas la technologie. C'est systémique. Si autant de gens tombent dans le panneau de l'argent magique, c'est parce que la pression économique réelle est intenable, tu vois. L'économie souterraine vient combler le vide.
Et cette suffocation, elle est clinique dans les rapports. Enfin, prenons les transports. Il y a eu près de 68 000 demandes d'aide étatique déposées pour 95 000 véhicules. C'est le thermomètre d'une crise majeure liée au carburant.
Surtout avec le choc pétrolier en arrière-plan.
Exactement. SAM Capital Bourse a fourni une analyse ultra détaillée sur le conflit Israël-Iran. Le baril de Brent a dépassé les 100 dollars. Pour situer pour l'audience, la loi de finances marocaine tablait sur 65 dollars le baril.
Un écart de 55%, c'est énorme.
C'est gigantesque.
Surtout pour un pays qui importe 90% de son énergie. L'analyse de Saham montre bien le mécanisme. Le détroit d'Ormuz est perturbé, bim, onde de choc. Et il dresse deux scénarios.
Le premier, c'est le transitoire, c'est ça, Ali ?
Ouais, le transitoire. De 2 à 4 semaines, le Brent se stabilise à 70-80 dollars. Là, l'État se prend un surcoût de 8 à 15 milliards de dirhams. C'est douloureux, mais gérable avec le déficit actuel.
Mais le deuxième scénario, le prolongé, c'est un vrai trou noir financier.
Ah oui, là, ça s'emballe. 6 à 12 mois de crise, un baril bloqué entre 90 et 110 dollars, la facture prend 40 à 50 milliards de dirhams de plus.
Ouch.
Et ça déclenche quoi ? Une inflation importée qui frappe les ménages. Des taux d'intérêt potentiellement haussés par Banque Al-Maghreb pour freiner tout ça.
Ce qui gèle l'investissement direct.
Exactement. Et le rapport anticipe même une chute de l'indice de la bourse, le MACI, de l'ordre de 10 à 15%.
Et quand la macroéconomie dérape comme ça, on voit très bien dans nos notes que ça redescend dans la rue. Et même dans les entreprises. Il y a ce remplacement d'urgence à la tête de Laser Crystal.
Karim Mansour Dhabi qui remplace Peter Tagh, oui.
C'est pas juste des chaises musicales, c'est pour faire face à la volatilité extrême des matières premières. Et cette pression, cette tension sociale permanente, elle se lit même dans les chiffres de la DGSN, la Sûreté Nationale.
Les chiffres de la sécurité routière. Hein.
Oui, 14 morts dans 2056 accidents de la circulation au périmètre urbain. En une seule semaine, c'est le reflet d'une société sous tension constante. Alors face à ça, face à cette vulnérabilité, comment l'État fait pour reprendre le contrôle ?
Eh bien, il redéfinit complètement la souveraineté. C'est un des points majeurs de eWeek. Si les menaces voyagent par des flux invisibles, l'inflation, la sécheresse, les algorithmes, il faut maîtriser l'invisible.
L'eau et le code informatique, en gros.
Voilà. La souveraineté aujourd'hui, c'est plus juste une frontière terrestre.
L'exemple de l'eau est fascinant dans le rapport. La KfW, la banque allemande, met 100 millions d'euros sur la table pour moderniser la gestion de l'eau au Maroc.
Et c'est pas juste un chèque en blanc, hein. C'est un changement de modèle.
Exactement. On passe d'une gestion de surface archaïque à du dessalement, du recyclage et de la digitalisation pour traquer la moindre goutte d'eau. Et cette logique de souveraineté, on la retrouve dans l'intelligence artificielle, non ?
Totalement. Lors de l'intervention de la ministre Amal El-Fallah Serouchni à l'université de Princeton, le message était clair. Le label AI Made in Morocco, soutenu par le PNUD.
Le hub des 4 SD.
C'est ça. Le but, c'est de s'extraire de la dépendance. À Princeton, elle explique bien que l'IA, surtout les systèmes multi-agents, ça ne doit pas être une boîte noire étrangère. Si tu ne maîtrises pas le code, tu n'es pas souverain.
Et du coup, cette volonté d'autonomie, ça redessine carrément les diplomaties. On voit des partenariats super pragmatiques se monter. L'axe Maroc-République tchèque, par exemple.
Oui, Prague qui cherche des relais stables hors de l'Europe, c'est très stratégique.
Mais le meilleur exemple, je trouve, c'est la coopération sécuritaire avec l'Espagne. Les sources mentionnent plus de 30 opérations conjointes et 150 interpellations terroristes depuis 2014.
Parce que les règles du jeu sont claires et acceptées des deux côtés.
D'ailleurs, la publication cite le sélectionneur espagnol de foot, Luis de la Fuente, et c'est génial. Il dit un truc du genre que ceux qui doivent prendre des décisions les prennent et nous, on respecte les règles.
C'est la métaphore parfaite. Quand les règles de surface sont respectées, le travail souterrain, comme l'antiterrorisme, peut se faire efficacement.
Alors ça, c'est pour ceux qui s'intègrent. Mais il faut faire une petite mise au point ici. On entre dans une zone géopolitique très tendue de notre analyse. Et l'idée est vraiment de rester objectif, de s'en tenir au rapport.
Bien sûr, on ne fait que relayer les analyses de eWeek.
Donc, pour les acteurs mondiaux marginalisés, les sources montrent une réalité beaucoup plus rugueuse. Ils redessinent un monde hyper polarisé. Prenons le traité entre la Corée du Nord et la Biélorussie.
C'est pas juste du commerce, c'est de la diplomatie de contournement. Pyongyang et Minsk créent des axes alternatifs pour briser l'isolement occidental. Les sanctions de surface sont contournées par des réseaux d'entraide invisibles.
C'est fou. Et un autre face-à-face qui illustre ce décalage entre surface et réalité, c'est les États-Unis et l'Iran. L'analyse du comportement de Donald Trump est hyper intéressante.
Le paradoxe total, oui.
C'est ça. Une communication super agressive, des ultimatums publics, mais en coulisses, ces ultimatums sont toujours repoussés. Enfin, c'est comme un parent qui compte jusqu'à 3, qui bloque à 2,5 et qui recommence à compter pour pas punir l'enfant.
Mais c'est exactement ça. Le rapport appelle ça la désescalade sous contrainte. L'administration tente de maîtriser le narratif de surface. Mais repousser un ultimatum, c'est avouer sa faiblesse.
Parce qu'il manque de soutien, c'est ça.
Oui, les documents notent une opinion américaine fatiguée, un soutien occidental fragile et surtout des intérêts israéliens et américains qui ne s'alignent pas toujours parfaitement. Une escalade militaire, ça échapperait à tout contrôle.
Surtout que sur le terrain, ça n'attend pas. Les données sur l'escalade au Liban sont tragiques. Le Liban a saisi l'ONU face aux frappes israéliennes. On parle de 1116 morts, dont 121 enfants et plus d'un million de déplacés.
Les chiffres font froid dans le dos.
Oui, et tactiquement, IWIC relève qu'Israël a détruit les ponts du fleuve Litani. C'est pas un hasard, c'est pour couper les ravitaillements pendant qu'ils avancent vers Taïbé, tandis que le Hezbollah riposte de son côté.
C'est la destruction classique des infrastructures de surface. Mais le plus fascinant dans nos notes concernant la guerre moderne, c'est ce détail sur la défense iranienne.
Ah oui, le système antiaérien S.
Exactement. Téhéran aurait dévoilé un système de défense aérienne entièrement souterrain qui aurait carrément frappé un chasseur américain F-35.
C'est l'image parfaite de notre analyse d'aujourd'hui, en fait.
Ah, bah le F-35, c'est le summum technologique de surface, super cher, super visible. Et il se fait toucher par un système invisible caché sous terre.
Ça prouve vraiment que les rapports de force se jouent sur deux plans séparés. La rhétorique, les résolutions de l'ONU, les communications officielles en haut. Et en bas, les algos, les bases souterraines, l'économie de l'ombre, qui digue vraiment le jeu.
Tout à fait. La surface craque de partout et la vraie dynamique se passe sous nos pieds.
C'est clair. Que ce soit le citoyen épuisé par le GMT+1, la victime de l'arnaque WhatsApp ou ces géants géopolitiques qui s'affrontent, les systèmes officiels de contrôle montrent leurs limites.
C'est la conclusion de tous ces dossiers.
Ce qui amène une réflexion vertigineuse pour quiconque suit ces sujets. Si les décisions de surface tournent de plus en plus à vide, la question de l'avenir n'est peut-être plus de savoir qui détient les institutions officielles,
mais plutôt qui contrôle les réseaux invisibles.
Exactement. Qui contrôle les flux souterrains qui dictent réellement nos vies. C'est sur cette question provocatrice qu'on va clore notre analyse de ces documents.
Il y a de quoi réfléchir, c'est sûr.
Carrément. Merci de nous avoir accompagnés pour cette exploration en profondeur et à très bientôt pour décortiquer ensemble de nouvelles sources.